si vous voulez aller voter. Alors donc, on va évoquer ce sujet qui est évidemment nous incommode beaucoup parce que c'est la propagande permanente de toutes les radios et que effectivement, on se croirait du temps de la police de Pétain, de la Gestapo, de la police. De la police en général, et nous essaierons bien sûr d'éviter de vous incommoder avec ça, mais en tout cas le discours que nous ferons évidemment n'a pas tellement de rapport avec celui que vous entendez généralement et avec cette espèce de foire de jeu de marionnettes de discours complètement stupide. J'entendais encore hier un discours d'un des candidats qui poussait des grands cris et qu'on n'entendait pas parce que malheureusement il a une très mauvaise voix. Et donc, un peu comme moi qui suis enroué ce matin, et donc c'était assez ridicule. Et puis nous évoquerons bien sûr dans l'actualité la disparition d'un personnage peu recommandable qui était directeur général de Sciences Po, vous savez cette officine qui sert de justement de c'est symbolique d'ailleurs parce que Sciences Po c'est le réservoir des élites, hein, tous les gens qui nous gouvernent, hein, qu'ils soient banquiers ou qu'ils soient ministres, ils sortent de Sciences Po avec en plus un petit paquet qui vient de l'ENA. D'ailleurs effectivement à la mort du directeur général, aussi bien Hollande que Sarkozy se sont précipités pour faire son éloge funèbre parce qu'évidemment ils lui doivent à lui comme à ceux qui l'ont précédé évidemment le droit d'être dans cette classe particulière, dans cette élite complètement repliée et fermée sur elle-même qui s'appelle l'élite politique, qui a totalement oublié, sauf pour les faire crier dans les meetings, qui a totalement oublié les réels problèmes de la société. Alors on parlera donc de la disparition de ce personnage. Est-ce que ça voudrait dire que les élites, en quelque sorte, qui nous obligent ou qui vous poussent au crime pour aller voter, est-ce qu'elles vont disparaître comme ce monsieur Descoings? Ce serait évidemment tout à fait souhaitable. On évoquera aussi un article qui est paru dans le journal Le Monde, je crois il y a quelques jours, peut-être un peu plus, et qui est très intéressant puisqu'il reproduit un document qui n'avait jamais été publié et qui est un manifeste que Albert Camus avait écrit pour le journal d'Alger Le Soir Républicain en novembre 1939. Vous voyez, c'est pas nouveau. Mais c'est complètement d'actualité puisque il évoque dans ce manifeste qui est fait à un moment de la guerre, au moment de la censure, il évoque ce que pourrait être le métier d'un honnête homme, d'un honnête journaliste, d'un personnage qui ne serait pas enfermé dans une espèce de soumission au pouvoir, aux puissances établies. Alors c'est un texte que je vous recommande, essayez de le retrouver. Il figure d'ailleurs, si vous avez internet, il figure sur Google, mais je crois qu'il est d'autant plus intéressant que si vous avez vu, comme on vous l'a recommandé, le film Les Chiens de Garde, eh bien, il illustre assez bien cette situation assez lamentable, d'ailleurs, qu'on évoquera à nouveau, puisque vous savez que le journal Le Monde vient de s'acoquiner avec un journal porno qui s'appelle Huffington, il est porno, il paraît qu'il est sérieux mais divertissant, avec comme patronne en France, évidemment, sous la houlette de la patronne du Huffington, Huffington. Elle a évidemment été intronisée. Cette patronne, c'est Anne Sinclair. Donc, vous voyez, nous sommes toujours dans le
ce lucre, spectacle.
Après le Minitel Rose qui a permis au monde de se recapitaliser avec Niel. Après Pierre Berger qui effectivement, en plus de de toutes les fortunes qu'il a évidemment fait grâce au luxe et grâce aux prêts, non pas à porter, mais aux vêtements de Yves Saint Laurent. Eh bien, il a aussi plusieurs boutiques, notamment Berger et Associés. Et quand vous regardez cette boutique, vous apercevez qu'il vend beaucoup de choses, évidemment, des objets qu'il a volés ou qu'il a fait voler en Afrique ou ailleurs, hein, comme tous les antiquaires, mais aussi j'ai remarqué une collection de à peu près 500 images pornographiques. Donc voyez que, alors il n'y a plus que Pigasse là, le copain d'Alain Minc, qui sort de la banque Lazare. Donc vous voyez que le monde est tout à fait bien entouré. Mais enfin, on évoquerait ça à propos de ce que c'est qu'un journaliste indépendant. Et puis dernier sujet, enfin Gérard, on aura sûrement d'autres, c'est que je voulais faire une petite intervention sur, à propos d'un article qui est paru dans Le Monde Libertaire, un article de Victor Serge, c'est un personnage qui a disparu il y a pas mal d'années, sur Marx et Bakounine, et puis également à propos d'un livre qui vient de sortir et qui est recommandé par Le Monde Diplomatique et qui fait également l'apologie de Marx. Alors disons que ça m'est resté un peu en travers de la gorge. Alors Gérard, je te laisse la parole.
Oui, Jacques, alors, bon, oui, ce matin, on va y arriver, hein.
Oui, mais parce je t'entends.
On est un peu éloigné.
C'est vrai qu'on a des petits
problèmes. Pour les auditeurs, j'espère qu'ils nous entendent bien, parce qu'on n'a pas tellement le retour pour vérifier, mais ils nous le diront, hein, en appelant tout à l'heure, on leur rappelle plutôt pendant les parties musicales, au 01 43 71 89 40. Alors, bah, ce qui est un peu récurrent, on parlera de ces élections, vous le savez, parce que qui n'intéresse pas grand monde apparemment, hein, c'est ce qu'on nous dit dans les gazettes, parce qu'ils ça.
Et t'as vu qu'aux États-Unis, il y avait d'une part une intervention de je ne sais plus qui pour dire que les électeurs américains se désintéressaient complètement de la campagne électorale républicaine.
Oh ben là, on peut le comprendre, puisque en même temps, pour les États-Unis, évidemment, faut être milliardaire, hein, donc le milliardaire républicain. Enfin, c'est absolument bon, la course à l'abjection là-bas, plus un peu plus qu'ailleurs, un peu plus peut-être qu'ici, dissimulé autrement, puisque Jacques, tu l'avais évoqué la semaine dernière, et c'est à la fois repris dans le Canard enchaîné de cette semaine, hein, l'article de Jean-Luc Porquet sur le coup d'État permanent, c'est-à-dire la Constitution, ce qu'on appelle cette Constitution de la Ve République, hein, qui est véritablement un coup d'État permanent, où c'est un pouvoir absolu c'est une Constitution rédigée, hein, pour un militaire. Faut le souvenir quand même, puisque quand même elle dure depuis combien d'années?
Et là, depuis 58, hein, ça fait donc presque plus d'un demi-siècle.
Plus un demi-siècle, alors que
nous sommes dans une république bananière qui n'a plus rien à voir avec la république telle qu'elle a été conçue par les révolutionnaires et tous ceux qui ont essayé de ouvrir en quelque sorte l'esprit, les portes et puis la solidarité, la fraternité.
Et la durée d'une constitution, Jacques, c'était prévu, enfin, une des lumières de l'époque, hein, Condorcet.
Oui, Condorcet disait, il y a une constitution, c'est bien beau, il faut l'expliquer. C'était dans ses leçons, enfin, il a fait cinq études sur l'instruction publique. C'est à propos justement de ce qu'on devait enseigner aux enfants. Et il disait, c'est bien d'enseigner aux enfants qu'il y a une constitution et leur expliquer pourquoi elle était mise en place, dans quelles conditions, et puis ce qu'elle crée, ce qu'elle définit comme relation sociale. Mais, ajoutait Condorcet, il faut surtout pas la sacraliser. Une constitution, c'est fait pour être changée en fonction des événements.
Elle est tellement bien.
Or, pendant 50 ans, nous sommes dans une constitution tout à fait illégitime, qui a été en effet provoquée et créée avec des référendums, hein, c'est-à-dire les plébiscites, c'est-à-dire au fond, une façon de dire au peuple, eh bien, tu dis oui oui ou non, mais t'as pas autre chose à dire. On te propose un truc que tu comprends pas, donc tu réponds oui parce que c'est un général qui te l'impose. Alors donc c'est vrai comme tu dis que c'est une aberration de continuer à fonctionner dans ce cadre-là.
Alors évidemment, bon, les électeurs ne le savent pas ou
ben, on va pas leur expliquer.
On va pas leur expliquer. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout le propos de tous la propagande médiatique hein, qui bouffe de tout ça, c'est-à-dire l'injustice, on le sait bien, absolue par rapport à l'égalité qui n'existe plus. Enfin bon, on verra au détour ce matin les derniers chiffres de l'INSEE, l'INSEERIEN, hein, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, la science du mensonge. Eh bien, on reviendra justement sur ces élections. Ben, je dirais peut-être...
Mais tu sais qu'il y a quand même une chose, je sais pas si tu as vu ça, j'ai pas vu beaucoup de développement, mais il me semble que la semaine dernière, il y avait un article disant que les sondeurs avaient remarqué qu'il y avait plus de 33% oui, de gens oui, qui oui, voulaient s'abstenir. Alors je pense qu'effectivement...
Alors évidemment, c'est des sondeurs, donc attention par rapport à l'ensemble des instituts de sondage, puisque à chaque fois, ils font partie du jeu de propagande, hein, ils sont là pour ça. Avec des courbes qui se croisent, enfin bon, c'est ça, et les bras croisés, et surtout les neurones. Donc là, on peut voir que toute cette propagande qui se développe est rappelée, alors lire quelques extraits d'un fameux texte publié dans Le Figaro, de l'époque du 28 novembre 1888.
Hein. C'est pas celui de Dassault.
Alors là aussi, ça fait longtemps quand même, hein, 112, 100, 124 ans, 125 ans... Hein. Un siècle plus un quart de siècle, la grève des électeurs, Octave Mirbeau, et on vous en lira quelques extraits sur le votard plus bête que les bêtes, hein, comme quelques extraits plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Voilà, en quelques lignes, ce qu'a dit Octave Mirbeau en 1888. Mais l'électeur, évidemment, on l'a déjà dit, c'est une religion, c'est un fidèle. Et l'électeur, il a les écoutilles fermées. Et l'électeur, il a les neurones. Alors la difficulté, justement, c'est de faire réfléchir un religieux ou de faire réfléchir un fidèle du bulletin de vote. Alors ça, on verra lire cet extrait parce que on l'a déjà évoqué. On passe quelques années après au début du XXe siècle pour le fameux texte de Gaston Coutet. On a continué pour faire la jonction dernièrement avec un néo-stalinien, comme disent certains, monsieur Alain Badiou, avec son petit livre Sarkozy pire que prévu, les autres candidats prévoir le pire. On vous en a parlé la semaine dernière. Alors on abordera ça parce que c'est vrai que bon, pour rigoler un peu, vous avez vu que les panneaux, ne tombez pas dans le panneau des élections, les fameux panneaux des 10 salopards, eh bien, ça s'installe un peu partout, mais ils osent pas trop, parce que quand même, c'est très bientôt, vous savez, 22, le 22, voilà les flics, hein. Alors, quand on dit ça, c'est amusant, mais faut pas oublier, là encore, pouvoir absolu, il a le pouvoir, hein, le président sur l'armée, et il a le pouvoir sur la police, hein. Donc c'est la confiscation d'un pouvoir absolu, donc on peut le dire, 22, voilà les flics. Alors, juste un mois après, on saura, hein, puisque ça sera apparemment, je ne sais pas, le 5 mai, on doit être le 5 avril, donc dans un mois, on verra l'absence de changement, hein, de toute façon, puisque là, le pire est à prévoir. Là, encore une fois, on a vu, c'est vraiment un champ de foire du trône, là, battleur, hein, sur les estrades, enfin, les prétendants, l'ancienne prétendante de 2007. Alors, toute cette valse, apparemment, ça n'amuse pas, hein. Là aussi, il y a quand même une sorte de lassitude. Paraît-il, hein, de l'ensemble de la population. Alors il faut trouver des thèmes. Hein, alors je sais pas, des thèmes pour. Il y en a un qui paraît-il spécialiste, qui sort chaque jour une nouveauté, un nouveau sujet qui devrait, comme dans un feuilleton, on est dans un feuilleton ou dans un téléfilm, attirer l'attention de la population. Donc on parlera de ça et au travers. Bon, j'avais fait une petite liste comme ça, un peu pour s'amuser du Sarkoland, hein, dans lequel nous sommes, évidemment, et on n'en changera pas. Eh bien, l'ensemble des prétendants, et parmi ces prétendants, justement, madame, on en a déjà parlé, madame Eva Joly, qu'on appelle dans cette émission Areva Joly. Pourquoi Areva Joly? Parce que ils se sont vendus des places de députés, hein, de députés contre des réacteurs qu'ils devraient peut-être garder, hein, au niveau du Parti Socialiste qui est absolument nucléocrate, ça vous le savez. Donc là, on verra peut-être aussi à travers de l'écologie, ce qu'était l'écologie, ce qu'elle a été à un moment, hein, au travers, je vais repérer ça, Jacques, on verra peut-être d'en parler un petit peu, de cet article signé par Dominique Simonnet, que j'ai vu dans Le Monde, hein, là aussi, qui est mardi 3 avril.
Oui, sur l'écologie incompatible avec la politique politicienne.
Évidemment, et l'écologie n'est pas morte, il nous dit, c'est l'écologie politique qui n'existe plus. Alors, c'est n'importe quoi. Mais quand même, dedans, enfin, on a souvent un peu de mal, parce que c'est un peu l'histoire du tricot. C'est donc là, on pourrait dire une ligne à l'endroit, comme une maille à l'endroit, et une ligne à l'envers. Hein, voilà. Alors, il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord, hein, reprendre dedans, et puis c'est un peu la combine. Vous savez, on fait quelques lignes, que l'ensemble de gens comme ça peuvent s'y retrouver, puis d'un seul coup, hop, on les fait glisser en leur racontant une genre de connerie du genre l'écologiste, un mélange libéral et libertaire, hein, comme ça, et hop, on absorbe ça, libéral et libertaire. Évidemment, c'est complètement incompatible, c'est antinomique, hein. Et alors, on verra ça par rapport peut-être à Madame Areva Joly, qui n'a pas disparu, là, hein. Moi, je pensais quand même, alors je précise quand même les auditeurs que l'on s'en prend pas aux personnes, hein, Dominem, hein, moi je la connais pas, hein, Madame Eva Joly, on s'en prend à la fonction, hein, mais si elle avait pu disparaître.
Ça, c'est valable un peu pour tous les, y compris même pour tous ces politiciens dont on critique la fonction. Voilà. Et donc, si tu lis le truc de Libertad sur l'électeur criminel, c'est bien, en effet, l'ensemble des gens qu'on incite à aller voter, à aller donner un pouvoir absolument démesuré à des personnages qui, évidemment, utiliseront ce pouvoir dans des conditions les plus abjectes possibles et qui continueront à tourner en rond au milieu de leur petite élite privilégiée, mais qui n'auront aucun souci, aucun respect, quoi qu'ils en disent, pour l'ensemble des populations. Hein. On le voit, exemple frappant, on voit Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande, tous les deux, aller discuter avec les banquiers pour dire, vous savez, vous inquiétez pas, on fera quand même ce que vous nous demanderez de faire. Donc on peut dire que, et même Monsieur Mélenchon qui fait des grands discours contre les banques, eh bien, il est certain qu'en tant que sénateur européen, il continuera bien sûr à jouer ce jeu infernal qui consiste à dire, vous êtes responsable des situations dans lesquelles nous, banquiers, nous vous avons mis, et puis, voilà. Donc, je crois que c'est vrai qu'il est criminel de donner du pouvoir à des personnages qui nécessairement en abuseront, comme tu le dis, hein, et que c'est pas l'individu, parce que si l'un de ces 10 marionnettes était simplement notre voisin de quartier, eh bien on discuterait avec lui, il aurait pas plus de pouvoir que nous, et donc on le respecterait comme il nous respecterait.
Jacques, alors justement pourquoi? Parce que, je viens de le dire, ces candidats, le capitalisme, évidemment, il a deux challengers de fer au feu, droite gauche pour gérer, et puis les autres, on verra, c'est pas une nouveauté, ils font illusion. Alors c'est comme un menu, hein, on va prendre un peu de truc, un peu de rouge ou une palette de peintre de couleur, on va mettre un peu de vert. Alors comme notre point de vue que l'écologie quand même est absolument incompatible avec avec cette abjection de l'élection, cette confiscation du pouvoir, ce qui est le contraire de d'un équilibre, d'une harmonie, d'une perception horizontale équilibrée où on prend un peu l'intérêt de chacun. Donc eh ben l'écologie, il y a pas qu'à Réva Joly qui se casse la gueule. Ben l'écologie, elle se casse la gueule, mais c'est pas l'écologie, c'est sa représentation encore une fois politicienne. Et pour preuve que c'est incompatible, ils en sont peut-être, hein, là encore une fois, bidonnage, faut faire attention, parce que les sondeurs sont des complices, sont des voyous du système de propagande. Ils nous parlent de 1%, hein, voilà, 1%, le résultat qui va faire que les gens vont dire, si ça fait 1%, voyez, les questions écologiques majeures de l'énergie, hein, les questions écologiques majeures de transformation radicale du système capitaliste qui conduit à la mort, de l'extension des espèces, de la biodiversité, de l'équilibre entre les gens, de leur manière d'être ensemble et tout ça, tout ça, c'est pas si important que ça, puisque ça peut faire 1%. Et alors les nénettes de l'écologie, parce que c'est ça, encore une fois, hein, donc on va dire attention, à l'écoute, encore une fois, la nouveauté de dire, c'est bien, moi j'ai vu un trio hier, il y avait Madame Voinet, hein, il y avait Madame Duflot et Madame Éva Joly avec des lunettes noires. Alors on avait les chaussettes noires, hein, vous savez, le groupe de rock'n'roll, et alors maintenant on a les lunettes noires, hein, voilà, ils nous ont fait, hein, 3 petits tours sur une estrade.
Oui, quand on parle des marionnettes à propos de ces 10 personnages qui se présentent, c'est vraiment le cas, là, avec, comme tu dis, ce spectacle ridicule avec ces 3 femmes qui mettent des lunettes noires, et puis Éva Joly faisant une réflexion humoristique en disant t'as vu ma gueule, elle fait une remarque sur un sketch.
Mirbeau. La grève des électeurs, entre autres, édition Alia, c'est précisé. Donc, un lecteur, viendra discuter avec vous, ceux qui voudront bien se rendre, venir tout du moins à Publico, hein, je vous le dis, vendredi 16 avril à partir 19h30, l'abstentionniste, alors bien au-delà, hein, c'est ce qu'on a dit, évidemment, de l'abstention, hein, c'est-à-dire que l'anarchie, les anarchistes, en dehors de ce jeu de dupes, d'escrocs, évidemment, mais plus que ça, cette contrainte, cette oppression que représente ce crime que représente la votation. Et pour vous encourager peut-être à venir vendredi soir, eh bien, je voulais vous lire quelques lignes, hein, de cette fameux article d'Octave Mirbeau. On savait écrire en ce temps-là, comme aurait dit l'autre. Hein. Et voilà ce que disait Octave Mirbeau. Il se place, on nous rappelle, dans l'héritage de la Boétie. Et son discours de la servitude volontaire, on vous en avait parlé, hein, puisqu'on avait été aussi l'équipe de Chronique Hebdo à Publico pour discuter encore une fois de ce texte de la Boétie écrit à 18 ans, discours de la servitude volontaire. Et voilà ce que nous dit Octave Mirbeau. Pour Mirbeau, les moutons vont à l'abattoir. Ils ne se disent rien, eux. Ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, ou pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, c'est malheureux de dire ça, mais plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Et je vous avais dit tout à l'heure, il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Alors j'ai quelques lignes, hein. Jacques, je continue, quelques lignes, hein, puisque un petit peu plus que ça. Voilà, alors, nous dit Mirbeau, bon électeur, inexprimable, imbécile, pauvre air, si au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes que te débitent chaque matin pour un sou, les journaux, grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau. Alors évidemment, il parlait des journaux, la radio n'existait pas, et la télévision, hein, les armes de destruction massive à l'époque. Si au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenille, le peuple souverain, comme dit Gaston, écoutez, si au lieu de t'arrêter, éternel badaud, devant les lourdes duperies des programmes, si tu lisais parfois au coin du feu. Alors là, il demande des choses, hein. Schopenhauer et Max Nordau. Bon. Et leurs deux philosophes, à l'époque, qui en savent long, et on peut les relire, sur tes maîtres et sur toi, hein, sur tes maîtres et sur toi. Alors on dirait peut-être maintenant Badiou. Hein, on a les philosophes qu'on peut, Jacques. Hein. Donc peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lues, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et ta belle redingote. Air grave, ça est toujours, c'est toujours d'actualité. À courir ensuite vers les urnes homicides, où quelque nom que tu mets d'avance le nom de ton plus mortel ennemi. Il te dirait, en connaisseur d'humanité, que la politique est un abominable mensonge, enfin, la politique politicienne, que tout y est à l'envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n'as rien à voir, toi, dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. Et quelques lignes, je termine. Rêve après cela, si tu veux, des paradis de lumière et de parfums, des fraternités impossibles, des bonheurs irréels. C'est bon de rêver. Et cela calme la souffrance, hein. Il nous faut rêver, faites-nous rêver, mais même pas, il nous faut même pas rêver, là. Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve, car là où est l'homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l'homme qui sollicite tes suffrages est de ce fait un malhonnête homme, parce qu'en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu'il ne te donnera pas et qu'il n'est pas d'ailleurs en son pouvoir de te donner. L'homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi. Il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts. Bah, regarde, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter, ranimer les espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t'imaginer que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd'hui est particulier à une époque ou à un régime et que cela passera. Il nous disait ça en 1888, hein. Voilà, visionnaire. Là aussi.
C'est tout à fait d'actualité.
Toutes les époques se valent, nous dit Mirbeau. Donc, rentre chez toi, bonhomme. Alors, il a, à l'époque, bonhomme, pourquoi? Parce que les femmes, ils pouvaient pas dire, rentre chez toi, bonne femme, parce qu'elles n'avaient pas le droit de vote, hein. On vous le rappelle quand même. C'est un grand changement formidable, hein, quand on donnera, et aux enfants, et aux animaux, les faire voter. Mais ils ne votent pas, vous le savez bien. C'est fait la grève du suffrage universel. Voilà. Et quelques lignes terminées. Tu n'as rien à y perdre. Je t'en réponds. Et cela pourra t'amuser quelque temps. Sur le seuil de ta porte, fermé aux quémandeurs d'aumônes politiques. Eh bien, les quémandeurs d'aumônes politiques, comme aux États-Unis, on venait d'en parler, ils font du porte-à-porte, les socialos. Ils viennent sonner chez vous en vous demandant, hein, allez voter, si vous voulez, déplacez-vous, et c'est mieux si c'était pour notre candidat. Et ils le font partout, hein, ça, Jacques. Alors, évidemment, on dit aux auditeurs, sachez bien les recevoir. Hein, on vous fait confiance. Donc là, c'est ce que t'appelais les ratapoils. Les quémandeurs, tu en avais parlé la semaine dernière, c'est la définition même du ratapoil, c'était dans les années 1850 pour Napoléon III. Tu regardais défiler la bagarre en fumant silencieusement ta pipe. Et s'il existe, en un endroit ignoré, un honnête homme capable de te gouverner, de t'aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au mensonge. Je te l'ai dit, bonhomme, bonne femme, on va l'actualiser, rentre chez toi et fais la grève. Voilà.
Oui, bah, effectivement, hein, c'est complètement d'actualité. Et je pense que même si on n'a plus à lire Schopenhauer ou Max Landau, comme le dit Octave Mirbeau, on peut lire Proudhon, on peut lire Bakounine, oui, qui effectivement ont aussi développé cette idée fondamentale que on ne peut pas abandonner, on ne peut pas déléguer son pouvoir si on est véritablement conscient de sa responsabilité, de ses capacités. Quand on parle d'autogestion, quand on parle de la nécessité possibilités de fonctionner, d'organiser les sociétés en partant de la base, en partant du local, en partant de la commune, eh bien, comme ça a été le cas pendant la guerre d'Espagne, l'expérience des communes du temps de cette révolution espagnole, de la même façon que la Commune de Paris. Quand on dit qu'il faut renverser les hiérarchies, il faut en effet être conscient que on ne peut plus accepter que la moindre initiative que vous prenez vienne d'un président de la République, au surplus un personnage, un petit roi, un petit tyran qui effectivement n'a qu'un seul objectif, c'est de vous transformer en zombie, de vous faire prier. C'est pas pour rien qu'il est chanoine du Latran, c'est pas pour rien qu'il est effectivement dans cette position de dire, ben moi je suis le roi, je suis l'envoyé de Dieu, donc vous devez m'obéir et rester fidèle. Donc je crois que en effet on a là une démonstration brillante de Mirbeau, selon laquelle c'est non seulement une soumission, une servitude volontaire, mais en même temps c'est un encouragement aussi au développement de cette domination, puisqu'au fond tous ceux qui se glorifieront d'avoir remporté une élection n'auront qu'un seul souci, d'ailleurs on l'a vu depuis Mirbeau, qu'un seul souci, c'est de se réserver, de se garder le pouvoir, les privilèges, et de ne surtout pas, on parle quelquefois d'un mur comme le mur de Berlin, ou comme ces riches qui s'enferment dans des petits bunkers pour que les pauvres ne viennent pas. Ça existe aux États-Unis, ça existe à Toulouse, même en France, mais finalement on peut dire que ce bunker, c'est le bunker des politiciens et de tous ceux qui les appuient. Hein, quand on regarde un peu ce qui se passe justement dans ces sphères dites de l'élite, eh bien on voit que on en a parlé souvent à propos des chiens de garde, ouais, et notamment de ces réunions au siècle, place de la Concorde, mais on voit que le banquier, le ministre, le député, le journaliste rampant, le journaliste chien de garde, l'avocat, tous ces gens,
le juge,
qui sont à la juge, qui font partie, ouais, en quelque sorte de la nomenclatura, eh bien ils se moquent totalement de l'électeur de base. Alors je crois que pour compléter,
oui Jacques, oui, ce que tu voulais,
je voulais simplement faire pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, oui. Je voulais faire un petit lire un petit texte sur justement une discussion entre deux futurs électeurs, une femme et un homme, et ce qui m'a fait penser à ça, c'est que dans le temps, je sais pas s'il y a des auditeurs qui s'en rappellent, mais on avait une émission qui s'appelait Sur le banc, oui, et qui était faite par deux personnages, oui, deux comédiens comme Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Alors donc j'avais imaginé un peu ces deux personnages qui seraient aussi dans cette incertitude, mais que faire quand on voit tout ce mouvement, cette propagande, cette publicité générale, que faire, que faire?
Matraquage.
Assise dans la cour de l'école, devant le bureau de vote, Jeanne et Alphonse, deux connaissances du quartier, s'interrogent. C'est Jeanne qui parle la première. Alors, Alphonse, tu vas y aller? T'as l'air penaud, t'as l'air mal à l'aise. T'hésiterais donc à faire ton devoir par hasard? Aurais-tu oublié que nos ancêtres se sont battus pour obtenir le droit de nous occuper de nos affaires, le pouvoir de décider ce qui est bien pour nous? Allez, Alphonse, un vrai citoyen comme toi, un vrai patriote, ça vote. Alphonse: mais enfin, Jeanne, tu sais bien que je suis pas contre le vote. Et les voisins, qu'est-ce qu'ils diraient s'ils me voyaient pas à l'école pour voter? Et puis, tu me dis que le vote, c'est un droit et un devoir. Mais ça veut dire quoi, ça? Si c'est un droit, je fais ce que je veux. Si c'est un devoir, je suis obligé de faire ce qu'on m'ordonne. Alors, Jeanne, comment t'expliques ce truc? Tu vois, c'est ça aussi qui me chamboule la tête. Jeanne, bien sûr, Alphonse, t'es libre d'en faire à ta tête. Mais Alphonse, tu te rends compte, il y a un président de la République à choisir. Quel honneur, quelle gloire pour nous autres. C'est comme si on nous mettait au rang des notables. C'est comme si on nous mettait au rang de ceux qui dirigent le pays. Tiens, Alphonse, c'est comme si t'avais la Légion d'honneur et moi le mérite agricole. Alphonse. Oh, moi, tu sais, Jeanne, les médailles, hein, c'est pas mon fort. Si le pouvoir que j'ai, grâce à ce droit de vote, c'est seulement de l'abandonner entre les mains de quelqu'un d'autre que moi, ce n'est plus mon pouvoir, mais une simple permission de répondre à une question que je n'ai pas posée. Tu crois vraiment qu'un président de la République, ça peut nous être utile? À nous, qui ne sommes pas de la haute. Jeanne. Ah, oh, Alphonse, quand même, il nous en faut bien, président. Alphonse. Eh ben, tu vois, Jeanne, plus j'y pense, moins j'en suis sûr qu'il nous en faut un, président. T'as qu'à regarder dans quelle mouise il nous a mis celui-là qui vient de tirer ses 5 ans. Et tu voudrais qu'on remette ça avec lui ou avec une doublure? Alors non, Jeanne, finalement, j'irai pas à cette foire du trône. Tant pis pour les voisins. On n'est pas des moutons, quand même. Ça serait bien que tu fasses comme moi, Jeanne, qu'on soit les plus nombreux à se battre pour en sortir de cette mouise, sans baisser culotte, devant une urne funéraire mise généreusement à notre disposition par les élites qui nous gouvernent.
Oui, alors voilà. Jacques, on peut rappeler... Ben oui, c'était Raymond Souplex, Jeanne Sourza... Sur ouais. Le banc, hein. Donc ils étaient un peu attifés en à l'époque, on pourrait dire en clochard, puisque c'était pas l'époque des SDF, hein, de cette appellation incontrôlée, des sans-logis surtout, des miséreux, des misérables, comme aurait dit le Victor, mais avec une forme de mépris. Ne l'oublions pas, les misérables, c'est pas révolutionnaire, vous le savez. Victor Hugo, en tout cas, s'est trempé. Dans l'eau bénite. Alors, l'eau bénite, c'est la croyance, hein, c'est ça, ben c'est oui. La croyance dans le bulletin de vote. Oui. Et la question qu'on développe aussi, cette religion enseignée par l'école de la République, hein, le catéchisme républicain, c'est vrai que quand on veut faire résonner, c'est l'expression de leur époque, on disait, il résonne comme un tambour. Alors, comme un tambour, on tape sur le tambour, hein, résonner à I et E, pour faire venir les électeurs, hein, aux urnes citoyennes.
On n'a pas mis la chanson de Gaston Coutet, oui. Là, dont tu parlais à l'heure. C'est vrai que elle est particulièrement d'actualité.
Alors elle est d'actualité, juste comme tu l'évoquais, bon, s'amuser. Moi j'ai appelé les 10 salopards. Hein. Il en reste 10. Alors évidemment cette foire du trône. Et comme on avait dit au début de cette émission, ne tombez pas dans le panneau, parce que les panneaux, il y en aura partout. Alors, pour s'amuser un peu, vous aviez donc en magasin, hein, dans les produits périmés, les produits périmés, les produits nuisibles surtout, hein, puisqu'on parle de la malbouffe. Et là, finalement, c'est eux la malbouffe, c'est ce qu'ils vont vous donner. Ils vont vous donner rien à becter ou de la malbouffe. Et ils vont permettre, évidemment, toutes les saloperies du capitalisme. Alors, le Sarkoland, c'est facile, hein, puisqu'on l'a entendu, là. Vous avez après la Le Penry. Alors, la Marinella, il y a eu même quelques chansons, tu sais, de Tino Rossi. Il y a eu un texte détourné, Marinella, qui est assez drôle pour ça. Et que vous pouvez écouter sur Internet. Hein, vous tapez...
Ah oui, Marinella.
Marinella.
Elle reste encore dans mes bras.
Dans mes bras. Et alors, c'est détourné, évidemment. Ça dit pas ces choses-là. Et ça lui souhaite... C'est beaucoup plus agressif, incisif. En tout cas, ils se défendent contre cette maladie. Le Bérou, alors le Bérou de secours, alors on l'a dit, du carrosse, alors on passe parce que lui fait des trucs, des interventions, on sait pas ce que c'est, il est en train de disparaître. Enfin, en tout cas, rappelez quand même aux auditeurs que c'est une grenouille de bénitier particulière. Hein. Il est pas seul, il est pratiquant du dimanche, quasiment tous les dimanches, il va à la communion. Alors... Le néo-stalinien, on a dit ça ce matin, Mélenchon.
Oui, d'ailleurs, on parlera de Marx et Bakounine.
Voilà,
tout
on
à l'heure.
En parlera. Alors, Mélenchon, on l'a dit déjà, le petit jeu de mots, ne mélangeons pas les torchons et les soviets, hein, pour ça. Voir ce qu'il en reste. Alors, j'ai déjà dit, un PDG, hein, parti de gauche, hein, le front de gauche, mais lui, Mélenchon, c'est le parti de gauche, le PDG. Alors, Poutou. Là, Jacques, hein, tu sais, un Poutou, deux Poutou, doudou.
Donc, ah oui, alors dis donc pour Poutou, je sais pas si tu as lu dans le Canard enchaîné, il y a un journaliste qui lui demande, bon alors si vous êtes élu président de la République, quelles seront vos premières décisions? Et alors Poutou est vraiment très embarrassé, et c'est il ça. Se trouve qu'il y avait Besancenot qui était là côté, à qui on pose la question, et Besancenot en rigolant dit, oh bah il serait bien dans la merde,
voilà.
il saurait pas quoi faire. Alors Poutou dit, bah oui, c'est vrai, c'est une éventualité qu'on n'a pas du tout examinée. Donc,
je pense
qu'effectivement, c'est ce qui devrait être la réaction naturelle de tous ceux qui sont candidats encore.
Bien sûr. Alors, alors, après Arthaud, Nathalie...
Elle, c'est Trotsky, tiens, j'ai entendu parler, ça. Elle a dit finalement, elle savait pas trop définir son programme, mais elle dit finalement, nous, on est révolutionnaires, mais alors, pas du tout comme Staline, mais comme Trotsky.
Alors, Nathalie Arthaud, alors, il y avait deux chansons, mais on les a pas. C'était, elle avait un joli nom, mon guide, Nathalie, c'était Gilbert Bécaud, la plage rouge était vide.
Oui.
La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie Arthaud, elle avait un joli nom, mon guide. Alors ça, on s'est marré, et puis d'autres avaient fait, et j'ai crié, tu sais Christophe, Staline, pour qu'il revienne. Enfin, il a pas chanté Mélenchon, mais il pourrait la chanter. Je lui propose dans un prochain gala, gala de battleur, donc chanter ça, cette chanson. Alors Cheminade, bon, on l'a dit ce matin, il veut du nucléaire citoyen. Alors Cheminade libitum, hein, bon, parce que on sait pas trop ce que c'est, ça coule de partout. Et alors Areva Jolie, on l'a dit, hein, ici pour le nucléaire, hein, c'est quand même son nom. Et puis Dupont-Aignan, parce que Dupont, ils font pas la jonction, ils font Dupont-Aignan, hein, mais normalement on doit faire la liaison. Et donc Dupont-Aignan, le patriote, hein, il en reste un, hein, celui-là, et lui c'est debout. Alors la France, mais c'est la France debout, en deux mots, D-E, plus loin, B-O-U-E, la France debout. Alors vous avez toute cette bande de salopards, comme je dis, et alors plutôt que de dire, comme au Alain Pétrand, là, qui président, qui s'est rendu à la Réunion... Ah, le comité d'accueil, il paraît que ça valait le coup parce qu'on entendait « Décasse-toi, pauvre con ». Et puis, sur certaines chaînes, ils ont coupé le son. Hein, ils ont coupé le son. Et alors, faut pas dire « Casse-toi, pauvre con », faut dire « Cassez-vous, bande de cons hein, », puisqu'ils sont 10. Et alors, plutôt qu'aussi « On va te faire la peau dans les urnes », on vient de dire, funéraire, eh bien, on va vous faire la peau en nous abstenant. Voilà, parce qu'on va faire de la politique.
Ouais, ouais.
Et puis finalement, c'est une chose bien trop sérieuse pour la laisser aux politiciens de métier ou aux politiciens évidemment improvisés, hein, puisqu'il y a de tout. Hein. On dirait pas liste à la Prévert, parce que Prévert, c'est quand même quelqu'un qu'on aime bien, et c'est plutôt une liste Bricorama. Hein, tu sais, quand tu vas à Bricorama, Monsieur Bricolage, voilà où on en est. Et donc, c'est un peu la situation. Et donc, les deux textes, en tout cas, Jacques, celui que tu as lu, et le rappel, évidemment, d'Octave Mirbeau, eh bien, c'est un petit peu ça, les lecteurs. Hein. Évidemment, les lecteurs, la religion, sera-t-il encore, est-il encore capable d'entendre, d'écouter autre chose, hein, puisque...
Bah c'est-à-dire, effectivement, c'est dans la mesure où c'est soit un jeu, soit une soumission à une foi, une espèce de fétichisme, on peut se demander si tous les arguments qu'on peut développer arriveront à le toucher. Et c'est vrai que d'une certaine façon, en ce moment, ça ressemble un peu, tu sais, à un pari dans un match de football ou bien dans une course de chevaux, quoi, en disant, ben voilà, moi je parie sur le numéro 4 et puis moi sur le numéro 1.
Vous avez tout à perdre et rien à gagner. Non.
Mais là. Voilà, la difficulté, c'est qu'il n'y a, a pas de prime, il n'y a pas de, résultats financiers à la fin de la course. Donc, je crois que c'est vrai que dans tous les cas, ça ne peut être que quelque chose de absolument triste. Bah, alors, pour en revenir quand même, on est quand même sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Alors, pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos de ce candidat révolutionnaire qu'on traite de robespierriste, qu'on traite de tous les noms, eh bien, je voulais souligner un texte de Victor Serge que j'ai lu dans Le Monde Libertaire et qui m'a paru tout à fait contestable. C'est un texte dans lequel il fait une comparaison entre Marx et Bakounine et donc dans lequel il a l'air de dire que Marx est quand même un personnage important, que des gens qui osent dire que c'est simplement un petit bourgeois ou un grand bourgeois ont tort. Quant à Bakounine, qui a essayé de lancer la révolution en 1871 à Lyon, un peu comme pour faire pendant à la Commune de Paris, eh bien, ça a été une initiative épique et ridicule en même temps. Voilà ce qu'écrit Victor Serge. C'est un texte qui est dans Le Monde Libertaire de la semaine dernière. Et donc, cette façon de se moquer de Bakounine, c'est effectivement le droit de chacun, mais ça me paraissait d'autant plus ridicule que il est mis en espèce de comparaison avec Marx, qui n'a évidemment rien à voir, bien au contraire, avec l'anarchie. Et ce que je pense utile de faire, parce que il n'y a pas que Le Monde Libertaire qui effectivement fait une espèce d'apologie entre guillemets de Marx, mais il y a également Le Monde Diplomatique qui cite également un ouvrage qui vient de sortir sur Marx. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les deux cas, le sujet sur lequel on fait l'éloge de Marx, c'est la Commune de Paris. Alors, la Commune de Paris, 1871, il faut quand même se rappeler un peu la position de Marx. Hein. Quand on peut lire dans Le Monde Libertaire l'article de Victor Serge qui dit exactement l'aventure de Bakounine, dont épique et puérile à la fois, bon, Marx voit très bien que les conditions d'une victoire prolétarienne ne sont pas encore données en France. Il craint que le prolétariat parisien ne se fasse saigner en engageant une bataille irréfléchie et il multiplie les avertissements. Et l'irréparable consommé, Marx prend la défense des communards vaincus. Voilà ce qu'écrit Victor Serge. Dans le même ordre d'idées, un personnage qui s'appelle Isabelle Caro, qui a écrit Marx et l'invention historique, écrit, enfin c'est un commentaire du journaliste qui cite son bouquin, et elle écrit « Ce que fit la Commune de Paris, dont l'inventivité institutionnelle et politique inspire à Marx un hommage enthousiaste. » Alors voilà, voilà deux affirmations que je voudrais quand même légèrement atténuer. Voilà exactement ce qu'a écrit Marx au moment de la guerre de 1870 et de la Commune de Paris. Il était chargé par l'Association internationale des travailleurs de rédiger et de diffuser un manifeste contre la guerre qui était destiné aux classes ouvrières de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Et voilà ce qu'il écrit le 20 juillet 1870, c'est-à-dire quelques mois avant la Commune de Paris, et ce qu'il écrit à Engels. Je t'envoie le réveil, c'est un journal. Tu y verras l'article du vieux Delescluze. Delescluze, c'était un, et ça a été un communard, un fédéré. Je t'envoie donc l'article du vieux Delescluze. C'est du plus pur chauvinisme. La France est le seul pays de l'idée. C'est-à-dire de l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Les Français, alors écoutez bien, les Français ont besoin d'être rossés. Si les Prussiens sont victorieux, la centralisation du pouvoir de l'État sera utile à la centralisation de la classe ouvrière allemande. La prépondérance allemande, en outre, transportera le centre de gravité du mouvement ouvrier européen de France en Allemagne. Et il ajoute, la prépondérance sur le théâtre du monde du prolétariat allemand, sur le prolétariat français, sera en même temps la prépondérance de notre théorie sur celle de Proudhon. Alors quand on écoute, quand on lit ça, on n'a aucun doute sur la morale de Marx. Hein. Le réalisme des deux compères, Marx et Engels, s'accorde bien. La fin justifie les moyens. Voilà ce que répond Engels au souhait que Marx fait de la victoire de Bismarck et de l'écrasement des ouvriers parisiens. Voilà ce qu'Engels répond. « Ma confiance dans la force militante croît chaque jour. C'est nous qui avons gagné la première bataille sérieuse. Il serait absurde de faire de l'anti-bismarckisme notre seul principe directeur. Bismarck, en ce moment, comme en 1866, travaille pour nous à sa façon. » Voilà ce qu'écrit Engels. Et auparavant, le 27 juin 69, Marx, qui craignait que Bakounine le supplante dans la direction du mouvement ouvrier international, écrit Engels, « Ce russe, cela est clair, veut devenir le dictateur du mouvement ouvrier européen. Qu'il prenne garde à lui, sinon il sera officiellement excommunié. » Alors vous voyez déjà que le stalinisme et l'exclusion étaient déjà dans la tête de Marx et d'Engels. Et Engels lui répond, si ce maudit russe cherche réellement à se placer, il est grand temps de le mettre hors d'état de nuire. Voilà ce que je voulais compléter parce que ces textes qui ont l'air de faire croire, je sais bien que Marx, qui était très habile, il a écrit un ouvrage après la défaite des ouvriers parisiens et la victoire de Bismarck, il a écrit un ouvrage à la gloire de la Commune de Paris en devenant brusquement quelqu'un qui trouvait que c'était quand même une initiative formidable que le communalisme. Mais enfin, il faut tout de même bien préciser ce qui a été sa vision des choses et surtout cette volonté de considérer que parce qu'on va écraser un mouvement anarchiste, un mouvement fédéraliste, un mouvement anti-autoritaire, donc anti-marxiste, c'était déjà pas nouveau puisque Proudhon et Marx avaient échangé déjà des lettres sur ce qu'ils considéraient comme une bonne chose pour le socialisme de l'époque. Eh bien, je crois que là, on a tout de même la démonstration très éclatante, éclairante de ce que c'est que tous ceux qui veulent, au nom de Marx et de ses accessoires et de ses acolytes et de ses descendants, qu'ils s'appellent Staline, Trotsky ou compagnie, eh bien, montre à quel point un système de type marxiste, autoritaire, ne peut être fondé comme le système capitaliste que sur la force, sur la violence et sur l'élimination de celui qui vous convient pas. Je sais pas, Gérard, si tu n'as pas vu, c'est vrai que c'est bien qu'on n'a pas la télé, mais j'aurais bien aimé montrer ça, l'image de Castro devant le pape, hein, et c'était extraordinaire. Tu vois les deux religions, voilà. La religion marxiste, c'est Castro, ça. Et la religion catholique, le pape, et ils sont la main dans la main, ouais, face à face, à Cuba.
Oui, on en avait parlé la semaine dernière, à évoquer sous le.
Mais j'ai trouvé l'image.
Sombrero, hein, sous le sombrero.
Ah oui, t'avais chanté même.
Voilà, papal. Donc elle a et donc le choc des religions et l'acoquinement évidemment, la complicité des deux religions, hein, puisque
avec des autres. Oui, ça, elles font pas dans la dentelle. Que ce soit l'inquisition ou le goulag, c'est.
Alors il y avait, tu te souviens peut-être un mec qui s'appelait, qui devait être à l'époque, je sais pas. Renseignements généraux, qui s'appelait Marette, il me semble bien, il y a quelques dizaines d'années, qu'il avait dit entre les deux, entre justement ce qui s'est passé en Union soviétique et la religion stalinienne, eh bien, par rapport à l'autre religion catholique, le tort qu'elle avait eu, la religion stalinienne, c'est de promettre le paradis sur Terre. Et donc, il avait dit, c'est pour ça que ça marchera pas, alors que les autres le savent bien, ça peut pas être ici, mais dans l'au-delà, évidemment. Donc, c'est beaucoup mieux, ça marche beaucoup mieux. Donc, on peut tout faire dans ces conditions-là. On voit la grande supériorité. Alors là, en tout cas, pour cette religion, mais comme on l'a dit souvent, dans cette émission, une religion peut en cacher une autre. Hein. Il y en a des multiples, hein, de les développer par rapport à un comportement, hein, c'est-à-dire le refus de réfléchir, hein, le refus d'analyser, le refus de l'esprit critique, le refus de contester.
Oui, enfin, puis l'esprit du sacré, voilà. Hein, c'est-à-dire ça. C'est un peu comme pour le référendum, le plébiscite pour choisir
Et les politiciens
un roi,
qui sont sacralisés.
C'est pas possible. Hein, c'est
et les politiciens Jeanne. Qui sont sacralisés, ils sont tellement sacralisés que quand ils ont un accident, tu l'as bien vu avec Madame Areva Joly, évidemment, on parle pas de tous les gens qui ont eu des accidents du boulot, hein, dernièrement, qui sont encore suicidés. Parce que les suicides, ça n'arrête pas dans le monde du travail, hein, puisque je voyais ça ce matin en venant. Écoute bien, Jacques, ça m'a fait quand même rire. Une proposition des télécoms à 50 ans en Yvelines, je vois une femme sur une bicyclette. Alors tu vas me dire, c'est exceptionnel parce que il y a des pistes cyclables, mais il y a très peu de gens qui pratiquent du vélo. Enfin, j'en fais un petit peu partie de temps en temps, mais pas ce matin. Et cette femme me dit, eh bien, j'ai pas encore mis un petit macaron sur ma bicyclette. Elle est offerte par les télécoms pour le mois d'avril. Hein. Alors donc, c'est le poisson, c'est pas le poisson d'avril. Mais là, elle disait pour le mois d'avril, un mois d'avril en vert. Et la direction de France Télécom veut nous soigner. Alors, je lui ai dit, je veux vous soigner. Je vais être un petit peu cynique. Est-ce qu'ils vous ont pas proposé de vous suicider en bicyclette? Parce que bon, elle avait pas l'air de pouvoir vraiment bien se déplacer. Et ça peut être, évidemment, on se doute, hein, au milieu des voitures. Vous savez, les péripéties que peuvent avoir beaucoup de cyclistes dans les villes, hein. Parce qu'avec c'est sans pitié. Les automobilistes sont sans pitié. Alors voilà la proposition. Et comme on parlait de l'accident gravissime de Madame Eva Joly, Areva Joly. Donc on n'en parlait pas beaucoup de tous ces. Alors c'est revenu un petit peu.
Mais il n'y a pas une descente de police au télécom, justement, parce qu'il y a eu une plainte sur ces problèmes de suicide et de conditions de travail. Et
oui, exactement.
Il me semble qu'il y a.
Exactement, pour des enquêtes en ce moment. Alors peut-être que là aussi c'est une manipulation, une de plus, aux France Télécom de leur faire un cadeau, de leur offrir. Mais je disais, bon, ils sont prêts à tout, hein, une bicyclette. Mais là aussi, le nombre de gens d'accidents du travail, tu sais bien, énorme. Alors, bon, dans le bâtiment, dans des tas de boulot. Et là, une glissade d'escalier d'une candidate sacralisée, eh bien, presque tout le petit monde médiatique, propagande, tout ça, sont dessous, hein, avec les bulletins de santé, tous à dire, oh, à son chevet, est-ce que... Alors, évidemment, pour cette personne, c'est important, mais en tant qu'une candidate, alors elle est sacralisée, alors là, on l'a vu, et tout le monde est prêt à faire intervenir, alors n'importe... Tous les gens, les messages de prompt rétablissement, enfin, voilà, là, les différences entre les individus. C'est ça, le citoyen, hein, le citoyen, et puis l'autre qui a tout, hein, qui peut tout faire. Donc, voilà les disproportions. Mais comme nous disait Octave Mirbeau, hein, pour les animaux, le mouton ne choisit pas son boucher qui le tuera, et le mouton ne choisit pas le bourgeois qui le mangera. Alors que l'électeur, bah, lui, il est prêt à tout. Alors, bon, question aussi, Jacques, que ce catéchisme scolaire, ce catéchisme républicain aussi, la responsabilité. Alors l'autre avait dit le prêtre au-dessus de l'instituteur, mais comme nous a dit Gaston Couté, l'instituteur, hein, dans son fameux texte sur l'école, au bout de bout des jours, peut-être que lui aussi porte une lourde responsabilité sur le fait de l'abdication à la vie de tous les enfants par rapport à des systèmes d'exploitation, par rapport à la bourgeoisie, par rapport, comme on l'appelait, l'a rappelé. Alors, je signale aux auditeurs, il y a une émission samedi matin, on parlait de le fameux bouquin de Baudelot de l'époque, Establet, il me semble, sur l'école du capitalisme. Hein. C'était il y a une quarantaine d'années, une équipe autour de Pierre Bourdieu. Et donc, une personne était invitée, venait de sortir un nouveau bouquin, justement, qui s'appelait « La nouvelle école capitaliste ». Ben oui, c'est l'école capitaliste. Et quand on a un peu analysé ça et qu'on le comprend... Eh bien, évidemment, on voit tous les avantages, hein, et tous les désavantages, pour la bourgeoisie, pour les dominants, pour une petite poignée d'individus, et puis tous les gobos qui tournent autour, qui gravitent tous les
courtisans. Oui, c'est ça, l'école est un mécanisme de reproduction du système absolument inique, absolument injuste, dans lequel fonctionne l'ensemble de la société. On va peut-être faire une petite pause.
Et quelques annonces, Jacques, on aura un petit peu de temps, puisqu'on a, plus d'un quart d'heure encore avant.
Ah oui, d'accord, mais moi je voulais aussi parler de Camus.
Ben écoute, là on met une chanson.
On va faire une pause. Et puis tu fais des annonces alors.
De jazz, voilà. Une annonce en particulier. Alors, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo. Et le numéro du studio.
Ben, j'ai l'impression que le CD numéro 3 ne marche pas. Donc on va revenir à nos premières amours.
Radio Libertaire, alors c'est l'émission Chronique Hebdo. Jacques, le petit morceau là de
Fats Waller.
Fats Waller, alors voilà. Alors, rapidement, donc, une annonce. Le Monde Libertaire vient de paraître aujourd'hui, c'est le jeudi, et le numéro 1667, alors, en couverture, vous verrez, surveillé, fiché, exploité. Bien ça, on le sait, on n'aura peut-être pas le temps de parler de l'affaire de Tarnac, encore une fois, avec le juge de Tarnac, Thierry Fragnoli, le clown, qui se dit persécuté par les avocats. Donc c'est le monde à l'envers pour l'affaire de Tarnac, alors il veut plus, il lâche l'affaire, enfin s'il la lâche, je ne sais pas, donc on n'aura peut-être pas le temps. En annonce, alors, vous avez le Monde Libertaire. On vous le rappelle aussi, pour soutenir Radio Libertaire, eh bien la carte d'auditeur, dont le prix est toujours fixé, c'est stable, ça bouge pas, 20 euros. Et puis aussi les amis de Radio Libertaire, une souscription, enfin, qui peut être mensuelle, continue, de soutien, à minima 5 euros, si vous le souhaitez, en tout cas, et tout toujours en vous adressant 145 rue Amelot, Paris 11e. Et alors une annonce, justement, pour la librairie Publico, c'est samedi prochain, samedi 7 avril, à 16h30, avec Georges Brassens, le thème du jour, Georges Brassens, avec Jean-Paul Liégeois, qui a présenté, établi, entre autres, l'édition des ouvrages « Les chemins qui ne mènent pas à Rome ». Je fais la liaison. Réflexion et maxime d'un libertaire et œuvre, vous le savez surtout, œuvre complète, aux éditions du Cherche Midi, et pour lesquelles Jean-Paul Liégeois était venu dans l'émission Chronique Hebdo. Alors, voilà, c'est samedi prochain, 16h30, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, Georges Brassens et Jean-Paul Liégeois. L'information, et Jacques, je termine aussi avec cette info, le forum Léo Ferré. Alors, allez au forum Léo Ferré, donc samedi 7 avril à partir de 20h30, Béa Tristan, recommande Béa Tristan, donc pour le forum Léo Ferré, et comme dirait Marc Cavet, allez au forum Léo Ferré. Voilà, et donc Jacques, les annonces pour moi, c'est fini. Alors
je voulais, pour compléter, puisqu'on a déjà fait des émissions sur... Albert Camus, je voudrais souligner un texte qui a été publié dans un supplément culture du journal Le Monde et qui s'appelle Le Manifeste de Camus. Le Manifeste, un manifeste qu'il a essayé de publier et qui a été censuré et qui a été publié, qui a été en tout cas élaboré juste à la veille de la guerre de 1940, c'était en 1939, Camus faisait un journal le Soir républicain à Alger, et il a essayé comme la censure était déjà tombée un peu partout en France notamment, il a essayé de faire un manifeste pour définir non seulement le comportement du journaliste en général, mais du journaliste dans une période de censure, dans une période où effectivement toutes ses capacités, en quelque sorte, toute son autonomie est de plus en plus mise en question par le pouvoir. Alors à l'époque, c'était le pouvoir militaire. Et ben aujourd'hui, c'est le pouvoir financier, c'est le pouvoir des banques. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Google en mettant le manifeste censuré d'Albert Camus, c'est ses idées sur ce que un journaliste doit avoir comme j'allais dire qualité particulière. Et ses idées et ces quatre qualités qu'il définit, eh bien, c'est d'une part la lucidité, c'est-à-dire au fond ne pas se laisser endormir par ceux qui veulent vous faire croire ce qui n'est pas la réalité ou qui essayent de vous inviter à énoncer des mensonges. La lucidité, d'une part, le refus, c'est-à-dire au fond, ne pas accepter d'entrer dans une logique de soumission, de subordination, donc au fond, un journaliste peut très bien refuser, et selon Camus, doit refuser. Ça peut être dangereux d'ailleurs pour son avenir quand il refuse, par exemple, à un patron de faire une enquête, de devenir un espèce de policier dans un domaine qui sur lequel il est pas du tout d'accord, hein, où il s'agit par exemple de faire de l'espionnage. Donc le refus, c'est sa deuxième qualité. Sa troisième qualité, c'est de savoir prendre une distance aussi avec ce qu'il énonce, c'est-à-dire de pas vouloir à tout prix que les informations qu'il donne et les commentaires qu'il fait soient la vérité avec un grand V, et donc avoir une distance, avoir de l'ironie. Troisième qualité, l'ironie. Et quatrième qualité, l'obstination. L'obstination parce qu'effectivement, tout souvent, tout est fait pour freiner ou pour dissuader le journaliste de s'exprimer sur des sujets qui ne conviennent pas à l'autorité en question, que ce soit la censure militaire, policière ou que ce soit la censure économique comme on le voit aujourd'hui. Alors je crois que ces quatre qualités, c'est important de le voir, de les souligner. Vous savez qu'on a fait une émission sur les chiens de garde et on a vu que malheureusement, ces quatre qualités sont loin d'être partagées par tous ceux qui se disent journalistes et que leur indépendance d'esprit, leur obstination, leur lucidité, le refus de se laisser entraîner dans des voies qui sont malhonnêtes, contraires à la justice, contraires à la morale, eh bien... Ça n'est pas évident. Et une illustration peut être donnée dans la mesure où justement, avant-hier, le journal Le Monde faisait un article pour dire qu'il était en équilibre financier, que finalement tout était bien dans le meilleur des mondes et que finalement il avait même réussi, grâce à la publicité, à avoir une augmentation de son chiffre d'affaires dans le domaine publicitaire de 19%. Alors effectivement, et puis au fond, il faisait... un espèce de discours d'autosatisfaction sur une demi-page et qui était signé par Israël Evitch, le directeur, et Louis Dreyfus, le président du directoire, et il concluait ces changements répondent tous à une ambition, produire une information toujours plus rigoureuse et indépendante. Alors toujours rigoureuse et indépendante. Eh ben, il se trouve que justement, la veille de ce texte publié dans Le Monde par la direction, il y avait une réunion et une manifestation dans les salons parisiens de la nomenclatura, dans lequel il y avait la patronne d'une grande organisation journalistique américaine, états-unienne, d'un journal qui s'appelle le Huffington Post, et qui vient de désigner cette patronne...
Anne Sinclair, voilà.
Comme patronne du Huffington Post, en France. Et le Huffington Post, c'est pas n'importe quoi, il est associé au Monde, c'est-à-dire qu'au fond ils ont maintenant une espèce de connivence, de complicité avec ce journal qui était un journal, je dirais pas porno, mais enfin, d'après Anne Sinclair, c'est un journal sérieux mais divertissant.
Libertin, hein, alors, je sais que pour son mari.
Divertissant, oui, donc oui. On peut penser qu'elle sait ce que c'est que le divertissement de monsieur Strauss-Kahn.
Alors Jacques,
ce qu'oublie de dire le directeur et le président du journal Le Monde, c'est que la société des rédacteurs du Monde, qui elle aussi est actionnaire, malheureusement, de référence du journal, a indiqué avoir obtenu des aménagements, entre guillemets, des aménagements de la direction du Monde à propos de la mise en route et de l'association avec le quotidien Huffington Post, c'est-à-dire qu'au fond, cette intrusion, en quelque sorte, d'un journal qui, effectivement, est peut-être comparable à n'importe quel petit journal sans intérêt ou un magazine comme le magazine du journal Le Monde tous les vendredis.
Le supplément.
Eh bien, ça, on oublie tout à fait d'en parler, alors que c'est une intrusion dont, malheureusement, la société des rédacteurs, qui est un peu affolée, sûrement par la question, et qui dit qu'elle a obtenu des aménagements sans expliquer ce que c'est que ces aménagements, et si c'est simplement qu'on l'obligera pas maintenant à aller fouiller dans les poubelles ou aller faire de la retape pour savoir si Monsieur Strauss-Kahn ou Monsieur X a été surpris dans des positions tout à fait équivoques avec telle ou telle femme de chambre. Voilà ce que on peut dire d'un journal qui se prétend un journal objectif et de référence. Hein. C'est-à-dire, il n'est même pas capable de dire nous nous sommes acoquinés avec le Huffington Post.
Oui, mais ben, je ne sais pas si tu avais lu par rapport à ça. On a un peu rigolé pour Monsieur DSK, hein, le rappeler quand même celui qui devait être président de la République, hein. Et encore une fois, le 11e salopard, puisqu'on a parlé des 10 salopards ce matin, et par rapport aux décisions de la dite justice bourgeoise, eh bien, il ne pourrait pas communiquer avec la presse. Il n'a pas le droit de communiquer avec la presse. Alors certains ont dit, ben, il ne pourra pas accorder d'entretien à sa femme. Et ça, c'est quand même très douloureux. C'est quand même quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Donc là, encore une fois, on voit tous ces accoquinements. Enfin, cette société du spectacle.
Oui, c'est vrai que ce fait divers est d'une grossièreté, d'une vulgarité sans nom. Mmh. Ce qui est étonnant, c'est que le monde s'associe avec ce genre de personnes.
Oui, mais on l'a déjà dit, le glissement.
On peut jusqu'alors on pouvait dire encore qu'on a quand même des raisons de douter de la morale de Madame Anne Sinclair, même si c'est pas sur le plan sexuel, mais en tout cas là jusqu'alors on pouvait dire bon, elle soutient son mari dans la détresse et qui est tristement accablé, mais en réalité si elle-même se met à la tête d'un journal divertissant entre guillemets, c'est-à-dire porno, eh bien effectivement on peut dire que tout ce qui est la connivence, l'association et le côté matériel, hein, comme le dit Strauss-Kahn, elle connaît.
Voilà, donc Chronique Hebdo, c'est terminé. L'émission suivante est présente dans le studio de Rimes et de Notes. Restez à l'écoute de Radio Libertaire. Et puis, vous pouvez, on vous l'a dit ce matin, l'écouter aussi, évidemment, sur Internet. Quant à nous, nous vous disons bonne abstinence, bonne abstention.
Ah oui, bah, surtout. Oui.
Et à la semaine prochaine.
Déguster de l'abstention.